Notre prochain invité vient de participer pour une deuxième fois en carrière au Tour de France, le plus grand tour de sa carrière, de ses propres dires au cours des dernières heures. Et c'est en Europe que nous le retrouvons, en France, le Québécois Hugo Hull qui est là. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Hugo, comment te sens-tu là au lendemain de ton deuxième Tour de France en carrière?
Bon, évidemment, bien fatigué de ces trois semaines de compétition, mais... Ça va quand même très bien là, dans les circonstances. Content d'avoir un peu de temps pour me reposer, récupérer de ce beau trois semaines qui a été qui s'est très très bien déroulé pour moi, où les performances étaient au rendez-vous. Donc, ça trace un bilan très très positif. Puis, je suis très content de la façon dont j'ai performé.
Qu'est-ce qui a été la plus grande différence pour toi entre cette expérience-là et la première l'an passé en 2019?
Bon, après, j'avais plus d'expérience. La première fois, j'étais pas que j'étais nerveux, mais je découvrais. J'avais plus, peut-être, j'étais peut-être moins à l'aise, mais je savais moins à quoi m'attendre, tandis que là, je savais exactement dans quoi je m'embarquais, ce qui me permettait d'être plus relax, puis c'est probablement que j'étais plus, en étant plus relax, j'avais plus d'énergie sur le vélo, je gaspillais moins d'énergie à côté. Donc, ça, c'était un avantage. Je pense que j'avais encore progressé au niveau physique. Donc, j'étais plus fort lors des compétitions. Je récupérais mieux. Donc, ça me permettait d'être plus à l'aise là, au sein du peloton puis d'aller chercher de meilleurs résultats.
Un test positif de COVID a failli te faire rater le Tour de France. C'est un faux positif, si j'ai bien compris, Hugo. Mais la petite pause à laquelle ça t'a obligé, là, penses-tu que ça a joué dans la performance que tu as livrée, dans les performances que tu as livrées au quotidien au Tour de France?
Bien, c'est certain que ça a été bon parce que le Tour a été très, très difficile. J'ai commencé quand même très bien reposé. J'ai eu de la chance à travers tout ce processus-là de tests que j'ai eu des retours de tests négatifs rapidement, donc j'ai pas eu à m'arrêter pendant 14 jours. J'ai pu m'entraîner malgré ça, donc ça a pas eu d'impact majeur là, sur ma préparation. Puis j'étais bien content de savoir que finalement c'était une erreur, que j'ai jamais contracté le virus, donc il n'y a pas eu de problème de santé, même si j'ai fait tous les tests nécessaires là, afin de valider toutes les hypothèses qui étaient possibles.
Tu parles de valider là, les performances que tu as répétées au quotidien, avec notamment un top 10 dès la 7e étape. Est-ce que ça vient valider le fait que ça vient valider ta progression à tous les niveaux, Hugo?
Oui, certainement. Puis je le sentais moi-même aussi sur le vélo. Bon, maintenant, j'habite à temps plein en Europe. Je suis quand même plus souvent à l'école. J'ai déménagé, donc il y a plus de dénivelé. Je fais la montagne au quotidien. Pour ceux qui ont suivi le tour, j'habite tout près du départ à Nice. Donc, c'est des parcours que je connaissais. Je pense que le fait de m'entraîner aussi avec d'autres collègues de très haut niveau, d'autres coureurs aussi dans la région qui sont très solides, ça me permet de progresser aussi. Puis c'est tout ça mis ensemble qui fait que j'ai encore progressé cette année.
Hugo, tu me permets une question qui pourrait peut-être toucher là, les aspirants ou les jeunes qui rêvent de suivre tes traces, peut-être sont dans l'adolescence en ce moment. Quand on parle de progression, puis parfois dans des sports d'endurance, la progression vient à un âge un petit peu plus... toi qui es sur le point là, de fêter, je pense, ton 30e anniversaire prochainement en Italie, mais qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui rêvent d'un jour participer à une étape ou à un Tour de France? Quel conseil tu peux donner à des gens qui sont à peine plus jeunes que toi ou beaucoup plus jeunes que toi?
Bon, honnêtement, que le travail bien fait, la persévérance, la discipline, on arrive à grandes choses. Des fois, ça prend du temps. Des fois, on regarde les gens autour de nous, ça semble facile pour eux, puis nous, c'est plus dur. Mais honnêtement, j'ai tout le temps travaillé fort, puis bon, j'aurais jamais imaginé me rendre où je me suis rendu aujourd'hui. Mais tranquillement, mais sûrement, à chaque année, je progresse. J'ai pas été un pogacar de moi-même. Là. Lui qui gagne le tour à 21 ans cette année, première participation, mais il remporte le tour trois maillots distinctifs. Donc, tu sais, il y en a qui réussissent plus rapidement que d'autres, mais moi, pour ma part, à chaque année, je m'améliore. Ça fait 10 ans que je suis professionnel. Ça continue, mais travaille fort, puis y croire, se faire confiance à soi-même. Il y a tout le temps des gens qui vont essayer de nous dissuader qu'on n'est pas capable, mais si on y croit nous-mêmes en premier... On se donne déjà pas mal de chances de réussir.
Tu dis que ton déménagement en Europe a contribué à te faire progresser au cours des derniers mois. On va dire d'un golfeur qui doit aller jouer à l'année dans le Sud s'il veut rivaliser avec les meilleurs au monde. Est-ce que c'est une décision que tu aurais souhaité prendre avant, Hugo? Est-ce que c'est une décision clé dans l'évolution de ta carrière?
Ouais, après... j'étais rendu là aujourd'hui. Avant, j'étais pas nécessairement prêt. Je pense que j'ai bien géré avant aussi. Mais arrivé un moment, ça devenait plus compliqué aussi au niveau être familial avec ma copine qui est maintenant avec moi à temps plein en Europe, qui travaille ici. Donc il y a toutes sortes de questions à traiter là-dedans. Là, c'est pas simple de quitter le Canada puis d'aller s'installer à l'intérieur. Il faut avoir certaines garanties. Puis le fait que j'ai un contrat à plus long terme nous a permis de faire ce choix-là. Puis de vivre l'expérience à 100%. Mais tu sais, évidemment, c'est au début.
C'est un alignement des astres.
Ouais, tu sais, je veux dire, c'est certain que le fait d'être ici à temps plein, j'évite beaucoup de voyages vers le Canada. Ma vie est plus stable, donc ça me permet de récupérer plus rapidement. Je te donne un autre exemple. Si ma copine n'avait pas été en Europe, c'est fort probable qu'après le Tour de France, je sois rentré au Canada, obligé d'être 2 semaines en quarantaine, tu vois. Donc, tu fais des voyages, donc tu gaspilles du temps à l'entraînement, ce qui fait qu'au bout de l'année, tu as perdu du temps, puis t'es moins performant, t'es moins stable. Ça impacte la récupération, tous les décalages horaires aussi. Donc, je pense que c'est au bout de la ligne, quand tu mets tous ces petits changements ensemble, que tu arrives à faire la différence.
En conversation avec le Québécois Hugo Hull, seul Canadien à participer au Tour de France 2020, est-ce que c'est spécial de savoir que tu es le seul gars du pays à avoir participé à l'épreuve cette année? Je sais qu'il n'y en a pas des tonnes non plus les autres années, mais est-ce que tu étais conscient de ça? Ça te donne-tu un feeling particulier?
Ouais, après, je dirais depuis le début de ma carrière, j'ai souvent été dans cette situation-là. Fait que c'est plus spécial maintenant parce que honnêtement, j'ai pas beaucoup de compatriotes sur les compétitions. Je suis tout le temps très heureux quand on est d'autres collègues canadiens. C'est le fun de parler un peu, puis encore plus en québécois. D'être avec des gars qui comprennent un peu ma situation, c'est toujours agréable. J'espère qu'il y en aura plus dans le futur, puis c'est que je peux tracer la voie pour inspirer les jeunes à monter sur le vélo. C'est ce qui est important. Puis, je vais être bien heureux qu'il y en ait plus ou qu'il y en a d'autres qui suivent mes traces, ça va faire grandement plaisir.
Tu as vécu de très belles journées pendant ce tour. Tu fais allusion notamment au fait que tu as réalisé un top 10 lors de la 7e étape et tu disais que c'était de bonnes journées pour toi. Tu as roulé souvent en avant du peloton. Je sais pas si tu peux nous transporter, Hugo, là, par tes mots, en images et en sensations sur ce que c'est que de vivre des beaux moments dans une épreuve aussi légendaire et prestigieuse que le Tour de France. Là. Ça ressemble à quoi quand tu te sens au summum de ta condition mentale et physique quand tu roules avec ces gars-là?
C'est une bonne question d'essayer de mettre des images là-dessus, mais c'est en fait, nous, pour ceux qui suivent, on a tout le temps la voiture rouge qui ouvre la course, donc quand tu l'as devant toi, ça veut dire que tu es dans le groupe de tête. Il y a tous les fans qui sont autour aussi, on entend les encouragements, les gens qui crient, tu entends le bruit des hélicoptères au-dessus qui filment aussi, donc il y a toute cette ambiance-là qui amène une espèce de feeling que tu n'as pas nécessairement sur d'autres courses qui sont dans l'année qui n'ont pas ce niveau-là d'infrastructure autour, donc toute l'infrastructure qui est autour, avec tout ce que ça implique, les caméras, les meilleurs cyclistes au monde, puis quand tu réussis à être dans le groupe de devant, puis de faire la différence, tu vois la moto-caméra qui est autour, les encouragements de la foule, donc c'est ce qui fait que ça nous emporte à nous pousser encore plus, puis que le tour est ce qu'il est. Bon, évidemment, cette année, il y avait moins de spectateurs pour les raisons qu'on connaît, mais il y avait quand même une belle ambiance, puis on était très chanceux de pouvoir faire le tour dans ces circonstances.
On peut pas le savoir comme toi, t'en es conscient, mais c'est big, c'est gros le Tour de France, Hugo, hein?
Non, ça c'est certain, puis je le vois quand j'y participe à chaque année, il y a beaucoup d'intérêt, les gens suivent ça, que ce soit de mon entourage proche ou un peu plus éloigné qui m'en parle, mais qui suivent pas nécessairement les autres compétitions dans l'année. Donc le tour c'est énorme, et le tour c'est un des événements sportifs numéro un, surtout présentement, il y a moins de sport, donc on a eu beaucoup d'attention là, au cours des 3 dernières semaines.
La pandémie, là, est-ce que ça a changé beaucoup de choses entre l'édition 2019 et 2020? Outre le fait qu'il y avait moins de spectateurs, tu sentais-tu que tu étais vraiment sur une planète différente?
Bon, on est déjà sur une planète différente sans COVID, honnêtement. On est quand même très, très isolés déjà dans notre monde avec nos accompagnateurs. On a notre propre chef cuisinier à l'hôtel. On n'est pas nécessairement en contact avec les gens. On mange dans des salles privatisées. On a une équipe autour de nous qu'on voit au quotidien, mais on voit que eux. Donc, c'était quand même, je veux dire, à part le port du masque, se laver les mains, puis être encore un petit peu plus isolé, mais on est déjà quand même très, très isolés, là. OK, au départ, aux arrivées, l'organisation du Tour de France avait mis des dispositifs en place pour que les spectateurs soient encore plus loin de nous et qu'ils ne puissent pas avoir de contact. Aussi, la gestion avec les journalistes, les caméras, évidemment, on pouvait pas faire des entrevues comme on voulait. Mais en dehors de ça, honnêtement, pour moi, dans mon métier, dans ce que j'avais à faire, c'était pratiquement pareil à l'année dernière. Là. À part que je portais mon masque en dehors du vélo, il n'y avait pas de il n'y avait pas d'écart, là, pas de différence.
Le sentiment là, d'arriver sur Paris, sur les Champs-Élysées, après à l'issue de la 21e étape, Hugo, pour toi et toute l'équipe Astana, dont votre leader a pris le sixième rang au total, Miguel Angel Lopez, c'est un bon sentiment arriver comme ça à la fin de cet effort ultime-là de presque un mois, là?
Oh non, c'est l'accomplissement de beaucoup. On est très fatigués, puis dans la dernière semaine, on compte les étapes difficiles parce que tu sais, à chaque jour, on a mal aux jambes, on souffle, on se met dans un état de souffrance, peu importe la vitesse que ça roule où on vient. Puis enfin, quand on rentre chez les Champs-Élysées, on sait qu'il reste 8 tours, puis après, on peut se reposer comme il faut, c'est fini. Après ça, il y a l'ambiance. Souvent, on a le coucher de soleil quand on arrive avec la vue sur l'Arc de Triomphe. Et les pavés qui semblent pas très usés à la télévision, je peux dire qu'on se fait brasser très, 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 très fort quand on descend. Quand on descend sur les Champs-Élysées, on frôle les vitesses pas loin de 65 km/h dans le pavé. Des fois, les chaînes sautent et des plateaux tellement qu'il y a des vibrations. Donc, c'est le feeling. Puis quand il y a avec l'atmosphère, là, rentrer dans Paris, toute la foule, traverser Paris, toutes les rues sont fermées, on roule. C'est quand même un sentiment, là. Un sentiment c'est assez spécial qui nous habite là après 3 semaines d'efforts comme ça. C'est tout un moment exceptionnel de dire bon, j'ai évité les chutes, je suis arrivé en santé, j'ai fini, j'ai tout donné, puis là c'est comme là on ferme le livre puis on s'en reverra l'année prochaine.
Est-ce qu'il y a place à une certaine émotion là quand on relâche? Je sais pas comment ça se manifeste, par de grands rires, par le mouton dans la gorge. Je veux dire, y a-t-il une sensation spéciale?
Ah, je dirais qu'hier, c'est surtout du bonheur. On est tous contents. Tout le monde a la même affaire. Notre staff, c'est comme un soulagement. C'est un gros coup de bonheur. On fait tout le temps une petite fête, un bon souper ensemble. Et puis, après ça, chacun rentre ses choix aujourd'hui. Je dirais que là, après-midi, j'étais moins fêtard un peu. J'étais plus fatigué pas mal. Donc, cette semaine, on a le retour d'ascenseur, si on veut. Là, vraiment plus amorphe, moins d'énergie. Puis, le corps a besoin de récupérer. Là, après une période de stress, là, que c'est... Il y a comme un retour de balancier qui s'effectue, le fait qu'évidemment, je vais rester très, très tranquille pour récupérer au maximum là, pour le week-end prochain au championnat du monde.
Combien de jours sans pédaler, Hugo?
Ah, ça, très peu. Dès demain, je reprends le vélo. Je vais rouler tous les jours parce que sinon, c'est trop drastique comme choc. Mais bon, au lieu de faire des 4, 5, 6 heures, 2 heures tranquille, sans pousser, mais garder l'organisme actif. Probablement que mercredi, là, je vais me faire une sortie 4 heures, 120 km avec des efforts un peu plus violents, justement, pour me stimuler un peu, pour pas que mon corps tombe trop en mode de dormance. Puis après ça, encore quelques jours comme ça de repos. Puis samedi, une petite activation. Dimanche, encore une grosse course, là, 5000 mètres de dénivelé, 260 km en Delhi sur le circuit Imola. Donc, une grosse commande, là, mais repos, puis avec à travers ça, là, vraiment certaines journées où on fait des petits efforts courts sans se vider à 100%, mais juste pour stresser un peu le corps pour pas qu'il s'endorme.
C'est vraiment admirable. Tu m'en permets une petite dernière, Hugo. Quand tu as l'impression que tu es au bout de la teinte, que tu as vidé le réservoir, là, je sais pas jusqu'à quel point on frappe de nombreux murs pendant une épreuve comme le Tour de France, mais c'est quoi le truc pour continuer de survivre, puis continuer de pédaler, puis de redoubler d'efforts? Est-ce que ça arrive?
ça arrive. Cette année, ça a quand même bien été. J'ai pas eu de murs comme ça. Des fois, c'est... Le pire, c'est quand ça vient d'une mauvaise alimentation, que tu n'as pas assez mangé, tu tombes en hypoglycémie, il n'y a rien que tu peux faire, il faut que tu manges, il faut t'attendre. Fait que tu sais, là, t'as juste pas de force, t'es brûlé, mais bon, normalement, on fait tellement de vélo qu'on est capable de continuer malgré toute cette souffrance-là. Puis on finit toujours par arriver, là, c'est une question de mental de continuer. Évidemment, quand t'es malade, exemple un rhume ou une chute qui te fait mal, là, c'est un autre type de souffrance. Mais la souffrance de se pousser à la limite, c'est vraiment une guerre mentale à un certain moment donné. Puis faire des épreuves comme le Tour de France, ça m'a amené à comprendre que le corps, au premier jour, j'avais mal aux jambes après 10 minutes. Puis 3 semaines après 3500 km, j'ai encore mal aux jambes, mais j'avance encore, puis le corps s'est adapté. Donc, il y a tout un mécanisme d'adaptation, là, mais il faut être fort mentalement pour être capable de persévérer.
C'est admirable. Bravo, Hugo, pour cette performance incroyable. Et puis, bonne chance au championnat du monde en Italie très, très bientôt. je te souhaiterais pas bonne fête à l'avance, mais on va se reprendre très bientôt le 27 septembre. Tu seras en plein championnat du monde sur route à l'occasion de célébrer ton 30e anniversaire. Bon repos en attendant, en prenant des petits moments relax, des randonnées de 4 heures là, en attendant.
Merci, puis ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne après-midi.
Merci beaucoup, Hugo. Bonne fin de soirée en France. Au revoir.
Ciao, ciao. Merci.